réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sabrina, j'ai grandi en banlieue parisienne, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Et j'ai 31 ans cette année et je vis actuellement à Londres. Depuis 2011. Ouais, ça fait 6 ans cette année. Quand j'ai passé mon bac, il y avait le fameux choix, je ne me rappelle plus du nom, mais en fait, il fallait choisir deux universités dans son secteur. Et les choix qui étaient disponibles pour moi, c'était soit Paris 8 Saint-Denis, soit Nanterre, ou Villetaneuse, je ne me rappelle plus. Et moi, je ne voulais pas faire ces universités-là, je voulais aller à Paris, je voulais faire la Sorbonne. Et je me rappelle que la conseillère d'orientation m'avait dit « Tu n'auras jamais une université pareille, parce qu'il faut choisir absolument dans son secteur, donc tu te retrouveras sans université si tu as ton bac. » J'ai pris quand même le risque de prendre une école à Paris, la Sorbonne Nouvelle, et j'étais prise. Et je me rappelle très bien que la conseillère d'orientation m'avait dit « Combien même tu réussirais à partir à Paris, tu n'auras jamais le niveau pour passer la première année. » Mon collège qui était le pire de France, qui est passé à zone interdite. Je me disais, je suis persuadée que si on travaille dur, on a un avenir. Donc je suis accrochée aux études. Parce qu'évidemment aussi, j'étais pas très garçon à l'époque. Je voulais pas avoir de petits copains ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment me focaliser sur avoir un vrai métier. Parce que pour moi, c'était ça la clé du succès. Et aussi, j'ai vu que ma maman, elle était très dépendante de mon père. J'ai capté à un très jeune âge que c'était une position très handicapée vis-à-vis d'un homme. Donc j'ai vraiment voulu avoir mon indépendance financière. C'était un luxe. Donc j'étais persuadée que j'allais réussir. Soit je faisais des études et je faisais les études que je voulais faire, soit je partais directement dans le monde de l'emploi. Donc j'ai pris le risque de choisir une bonne école, sinon ça n'en valait pas la peine. Et je suis allée à la Sorbonne et j'ai fait partie des gens qui ont passé leur première année, leur deuxième année, et je me suis retrouvée à faire deux masters plus tard. En anglais, j'ai fait LLSCE d'anglais. Donc, j'ai postulé à une école de commerce, EACP, pour faire un master spécialisé. Et là encore, tout le monde me disait « tu vas jamais l'avoir ». Et j'ai été acceptée dans la promo et j'ai eu mon master en une année. Donc là encore, beaucoup de personnes pour vous dissuader, pour vous faire croire que vous n'avez pas de niveau. Et finalement, si. Parce que j'y ai toujours cru. Je savais que moi, j'avais le niveau. Parce que je savais que j'allais me battre. Ou du moins travailler très dur. Donc, en faisant le ACP, j'étais la seule de la promo à être un peu d'origine algérienne dans la classe. Et je me rappelle très rapidement que dans ce master spécialisé, il y avait beaucoup de personnes de familles aisées. Et ils ont tous rapidement trouvé un boulot derrière ou un stage derrière parce qu'ils avaient le bon nom, ou la bonne adresse ou des bons contacts. J'avais rien du tout de tout cela. Mais j'y ai toujours cru. Et c'est à ce moment-là, en sortant de l'école, qu'on réalise de plein fouet la réalité. Parce qu'encore dans l'école, il y a un petit concon. Ça reste encore le professeur, les cours, on a tous la même chance. On est tous à égalité au niveau des examens. Mais quand on part dans la réalité du marché, on commence à réaliser qu'on a plus d'handicap que les autres et qu'on n'arrive pas à décrocher un simple stage. Même si on arrive à aller dans le stage, on n'arrive pas à aboutir et à être sélectionné à la fin du processus de sélection. J'y ai cru pendant un an. Vers la fin, j'ai vraiment perdu confiance en moi. Je pensais que j'étais vraiment nulle. L'entretien le plus traumatisant que j'ai eu, je suis arrivée en soirée, il n'y avait personne dans les bureaux. C'était un entretien 19h. Quand je suis arrivée, je me rappelle très bien que la personne s'était assise en face de moi. Très belle jeune femme, 35 ans, elle était très, très jolie. J'avais 26 ans. Quand je suis arrivée devant elle, elle se pose devant moi et ça commence en ces termes. Je ne doute pas de vos capacités. Je suis persuadée que vous avez le profil pour avoir ce poste. Mais cet entretien, ça sera plus du profiling pour savoir si on peut s'entendre toutes les deux. Une fois qu'elle a planté le décor, la première question, c'était « Bon, je vois votre prénom dans votre CV. Vous êtes de nationalité française, évidemment, parce que mon prénom n'est pas tout à fait français. Mais vous êtes de quelle origine ?» Donc je me dis, bon, ben, soit je fais la carte, j'ai pas compris la question, je répète que je suis française, soit je la prends pas pour une idiote et je réponds directement à la question qu'elle m'a posée, et lui dire tout à fait mes origines. Et je me rappelle que je lui ai répondu, mes parents sont d'origine algérienne. Et elle prend son stylo, elle écrit sur mon CV. Je crois qu'elle a vu mon regard et à ce moment-là, elle me fait « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous n'avez pas de photo dans votre CV. » Au fond de moi, je savais que c'était scellé, mais je voulais pas y croire. Ça n'a pas loupé. Une semaine plus tard, je relance la RH, qui relance cette personne qui n'a même pas daigné me répondre ni me faire un feedback de cet entretien pour réaliser plus tard, apprendre deux semaines plus tard, qu'elle avait recruté quelqu'un qui avait plus le profil, entre guillemets. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je pars à l'aéroport, parce que c'est le plan de carrière de tous les gens de ma ville, et je vais travailler là-bas. Mon père, ma mère n'a pas travaillé et tous mes frères et sœurs travaillent à l'aéroport. Des métiers comme maintenance, des métiers assez basiques. Hein. Parce que ça, je l'ai fait tout le temps en étant étudiante. J'ai toujours bossé parce que j'avais pas assez de boulot. Donc j'ai toujours bossé à l'aéroport sur le côté. Mais pour moi, c'est un boulot d'étudiante. Et j'ai croisé toutes ces collègues qui étaient là en tant qu'étudiantes qui sont jamais sorties de là. Parce qu'elles ont abandonné leur rêve et que finalement, il y a un revenu et la réalité les rattrape. Des gens qui ont des bac plus 4, bac plus 5. Puis, vous restez 5 ans en dehors du marché, c'est fini. Donc ça, c'était l'une des options. Soit, je tente ma chance et je repars en Angleterre. J'étais déjà allée en Angleterre dans le cadre de mes études avec un programme Erasmus. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance pendant 6 mois pour voir ce que ça vaut là-bas, mes études. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi je voulais me prendre la tête à partir loin pour avoir un boulot dans un bureau alors que je pouvais travailler à l'aéroport. Ils ne comprenaient pas ma frustration. D'autant plus que je suis une fille, donc pour eux, une fille, c'est pas si important. Une fille réussira toujours par un mariage. Ça ne réussira pas avec une carrière. Et c'est une autre génération, ils ont 70 ans. Clash de culture et clash de génération. Surtout à leur époque, c'était vraiment une femme se marie... Elle trouvera un mari qui bossera pour elle. Sauf que de nos jours, elle ne connaît pas les stats et qu'une femme vaudrait mieux pour elle qu'elle ait un bon boulot, je pense. Mes parents étaient bien sûr contre l'idée. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Je suis partie contre leur volonté et leurs accords. Mais ils ne m'ont pas soutenue. Je suis partie un peu derrière leur dos. Ça a été assez traumatisant. Ils étaient même en vacances le jour où je suis partie. Ils étaient fâchés, ils sont partis en vacances, et ils savaient très bien que je partais à cette date. J'ai pas eu un comité d'au revoir. Ils pensaient me foutre la pression pour que je reste derrière, sans partir. Et je me disais, je leur prouverais qu'ils avaient tort. Je savais que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Sinon, je passais à côté de ma vie. J'ai vraiment eu besoin de partir en Angleterre juste pour me redorer le blason, juste pour voir ce que ça donne, pour au moins juste me rassurer que j'étais pas folle. Et du coup, je suis partie en Angleterre, et je me suis endettée, je me rappelle, je suis allée voir la banque pour payer les premiers loyers, parce que j'ai pas d'argent. Et finalement, ça a été un bon investissement. Donc j'ai fait un crédit de 4000 euros à l'époque. Je suis allée à Londres, premier mois, j'ai trouvé un boulot, en un mois. Je pensais pas trouver aussi vite. Un boulot rémunéré, sachant qu'en France, on parle de stage non rémunéré, que j'ai pas réussi à décrocher. Et j'ai eu le boulot, et c'était un boulot qu'on ne pouvait pas dire non. J'ai commencé à bosser à Guerlain, puis après, 6 mois plus tard, Yahoo. Et c'est des boîtes que j'aurais jamais eues en France. Clairement. Je travaille pour des boîtes tech, qui ont le vent en poupe, du style Facebook. C'est impressionnant de voir en Angleterre le nombre d'étrangers, entre guillemets, qui sont représentatifs de ce qui se passe à l'extérieur, autant que leur gouvernement, ne serait-ce que le maire anglais qui est Sadiq Khan. Et quand on vient en France, il n'y a encore que des purs franco-français au bureau. Il n'y a pas de maghrébins, il n'y a pas de personnes un peu bronzées. C'est assez flagrant. Et quand je pense retourner en France, j'ai peur. J'ai vraiment peur et j'ai du mal avec les mentalités maintenant. À depuis l'année dernière, je suis mariée avec un Français d'ailleurs, un pur franco-français. La surprise. Alors j'ai rencontré lors de mon programme Erasmus, j'ai fait un an d'échange quand j'avais 21 ans. J'étais loin de me douter que ça allait être mon mari, 10 ans plus tard. Et on s'était jamais vraiment perdu de vue. Lui, c'est un Français qui a quitté la France il y a 12 ans sans jamais revenir. Il est parti du jour au lendemain, sans se retourner. Et je pense que cet amour n'aurait pas pu naître en France, du coup, paradoxalement.
Pourquoi ?
Parce que je me suis jamais sentie française en France. Mais jamais. Parce qu'en banlieue, ben, on est dans les communautés. On reste entre communautés. Donc on n'est qu'avec des Turcs ou des gens maghrébins. Puis quand on part à Paris, on vous fait sentir que vous n'êtes pas française. En marchant à Londres, je me rappelle la toute première fois, ce qui m'avait le plus choqué, quand on marche dans les rues, c'est la première fois qu'on se sent chez soi. Personne ne vous regarde. C'est un pays qui ne juge pas. C'est génial. Et du coup, je me suis vraiment sentie française là-bas, parce que quand on me demandait j'étais de quelle origine, j'étais un peu perturbée, je ne savais pas comment répondre à cette question. Parce que clairement, pour eux, je suis française avec mon accent. Alors que pour moi, je me disais, mais c'est étrange. Mais avec les années qui sont passées, je vois complètement que je suis purement française pour mes collègues anglais, ce qui est assez drôle. Et du coup, j'accepte l'idée que je suis française, finalement. C'est triste de ne pas donner la chance à des gens comme moi en France, pour qui la France a payé. Ils m'ont payé mes études, j'étais boursière. J'ai fait des très belles études grâce à la France. J'étais motivée, je voulais utiliser mon talent pour mon pays. Et on m'a pas donné la chance parce que j'avais aucun réseau, aucun contact, pas la bonne adresse et peut-être pas le bon nom.
Culture, les pieds sur terre.